지죠.
Il est 7h à Paris, 6h en temps universel.
RFI Matin.
Et 1h à Washington. Bonjour Martin Guerre.
Bonjour Marion, bonjour à toutes et à tous.
Conseil de la paix première, Donald Trump baptise son bébé en fanfare.
En présence de 47 pays, une instance qui se veut une alternative à l'ONU. Une première réunion largement boudée par les Européens. Première réunion qui s'est largement concentrée sur la reconstruction de la bande de Gaza. Nous serons ensuite en Syrie. RFI est l'un des rares médias à s'être rendu au camp de Al-Hol, triste symbole des camps djihadistes du nord syrien. Plus de 24 000 résidents affiliés au groupe État islamique, un camp démantelé cette semaine par les autorités de Damas. Le Sénégal pourrait encore durcir la pénalisation de l'homosexualité. Les peines de prison devraient être considérablement alourdies, ce que dénoncent véhément les ONG de défense des droits humains. Nous serons aussi dans le journal en Argentine, journée de grève générale, alors que l'Assemblée vient tout juste d'adopter le projet du président ultralibéral Javier Milei de réforme du marché du travail. Et puis enfin en France, première journée d'un procès historique, celui du géant pétro-gazier Total Energy, et débat houleux à Marseille, où l'extrême droite est au coude à coude avec le maire sortant à quelques jours des municipales.
À l'ONU, Donald Trump fait cavalier seul et lance son Conseil de la paix.
Censé faire office d'organe parallèle aux Nations Unies pour résoudre les conflits dans le monde. Un vaste projet, Marion, lancé en grande pompe hier à Washington, conseil boudé par les pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU, mais auquel prennent part une quarantaine de pays, loin du multilatéralisme onusien. Cette nouvelle organisation consacre surtout la vision du monde du président américain, notamment vis-à-vis de la bande de Gaza, au cœur des discussions de cette première réunion à Washington, Loubnalek.
La guerre à Gaza est finie, lance Donald Trump. Pour lui, il est temps de penser à l'avenir, et peu importe si sur le terrain la réalité est tout autre. En donnant le coup d'envoi de son Conseil de la paix, le président américain a de nouveau détaillé son plan et sa vision. Il a promis 10 milliards de dollars pour la reconstruction de la bande de Gaza. Les pays présents ont eux aussi promis des fonds et des troupes pour la future force internationale de stabilisation placée sous le commandement des États-Unis et de l'Indonésie.
On travaille ensemble pour assurer un avenir radieux aux habitants de Gaza. Tous les pays présents œuvrent pour un Proche-Orient libéré de l'extrémisme et du terrorisme.
Accusé de vouloir concurrencer les Nations Unies avec ce Conseil, Donald Trump a assuré que l'ONU restait une instance importante, mais ses propos risquent de ne pas forcément rassurer les critiques puisqu'il se voit en superviseur.
Le Conseil pour la paix va, dans un sens, surveiller les Nations Unies de près pour s'assurer que tout fonctionne bien. Et je pense qu'à terme, l'ONU pourra atteindre son vrai potentiel. Ce sera un grand jour.
Si les membres du Conseil de la paix se sont voulus optimistes, les représentants d'Israël ont insisté sur le fait que rien ne pourrait être mis en place tant que le Hamas ne déposait pas totalement les armes. Loubnalek, New York, RFI.
Donald Trump qui a annoncé que plusieurs pays avaient promis une enveloppe de 7 milliards de dollars pour reconstruire l'enclave palestinienne dévastée, ainsi que la création d'une force de stabilisation de 20 000 hommes, dont 8 000 soldats fournis par l'Indonésie, qui en assurerait le co-commandement. L'Union européenne, qui était la grande absente de cette réunion inaugurale, à laquelle a tout de même assisté un commissaire européen en tant qu'observateur, ce qui n'aurait jamais dû être le cas, a vivement protesté le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot.
Une première depuis 5 siècles au Royaume-Uni, où un membre de la famille royale a été brièvement arrêté.
Ah oui, une première depuis Charles Ier en 1649. Andrew est sorti de prison hier soir, autrefois prince chéri de la monarchie, aujourd'hui paria, rattrapé par l'affaire Epstein, l'ex-prince brièvement arrêté hier par la police britannique, puis relâché dans la soirée, soupçonné d'avoir abusé de sa position de représentant du gouvernement au commerce entre 2001 et 2011. Mais l'enquête n'est pas terminée, a ajouté la justice anglaise. Andrew lâché par ailleurs par son frère. Dans un très rare communiqué, le roi Charles III a dit sa plus profonde inquiétude, ajoutant que la justice doit suivre son cours. On y revient juste après le journal avec Catherine Marshall, professeure en histoire et en civilisation britannique à Cergy Paris Université. Elle sera votre invitée, Marion Cazeneuve.
En Syrie, à présent, le camp d'Al-Hol, vidé de ses résidents.
Un camp longtemps synonyme de bombe à retardement. Il s'agit tout simplement du plus grand camp de familles de djihadistes syriens et djihadistes étrangers accusés d'être liés au groupe État islamique. Pas moins de 24 000 personnes y étaient détenues. Un camp créé en 2010. COVID-19 est démantelée cette semaine par les autorités de Damas. Une majorité de résidents se sont échappés lors du retrait des forces kurdes sous pression de l'armée syrienne qui en a pris le contrôle. Damas qui transfère actuellement les dernières familles vers un nouveau camp sécurisé au nord d'Alep, le camp d'Al-Hol, où s'est rendue notre correspondante Manon Chaplin.
Collé à la grille à l'extérieur du camp, un couple de soixantenaires recherche sa belle-fille désespérément. Voilà 10 ans qu'ils ont été séparés d'elle et de leurs 2 petits-enfants. 10 ans qu'elle est partie rejoindre l'État islamique avant d'être retenue à Al-Hol.
Vous ne l'auriez pas vue, elle s'appelle Eba. Elle est originaire de Maskana. Ils sont arrivés avant-hier, dans l'après-midi.
Soudain, voilà Eba qui débarque. La famille se tombe dans les bras avant d'exploser en larmes. Rapidement, ils se font séparer par des gardes.
Vous ne voulez pas nous la rendre? Nous ne sommes plus que mon mari et moi.
Bientôt, un nouveau convoi rempli de familles arrive. Au total, 6 bus, quelques 300 personnes transférées dans des préfabriqués. Des 24 000 résidents du camp, la plupart se sont échappés lors du retrait des FDS, explique Rana.
Ceux qui n'avaient nulle part où aller sont restés. Ceux qui pouvaient partir se sont enfuis. Nous, nous sommes restés, car nous préférons sortir de manière légale du camp.
Vous y croyez, vous, au fait que vous allez pouvoir sortir un jour légalement d'ici?
On espère qu'ils ne nous ont pas sortis d'Al-Hol pour nous mettre dans une nouvelle prison.
Longtemps, Al-Hol a été considéré comme une bombe à retardement. Les conditions humanitaires et la densité de population dites propices à la radicalisation. Aujourd'hui, Saba ne souhaite plus qu'une chose.
Sortir, voir la vie, voir le monde, inscrire nos enfants à l'école. Toutes ces années, on a vu que les tentes et le désert. On est vraiment fatigué.
Un doute subsiste sur l'avenir de ce nouveau camp. Certaines ONG affirment que les familles pourront un jour sortir si elles ont un garant. Manon Chaplin, à Alep, RFI.
L'actualité au Moyen-Orient, c'est aussi cet ultimatum de Donald Trump qui se donne 10 à 15 jours pour décider s'il recourt à la force face à l'Iran, délai au-delà duquel de mauvaises choses arriveront faute d'un accord pertinent, a-t-il déclaré. L'Iran qui a répondu en réitérant ses menaces envers les bases américaines au Moyen-Orient en cas d'attaque des États-Unis dans une lettre adressée au secrétaire général de l'ONU.
Le Sénégal s'apprête à durcir encore sa législation envers l'homosexualité.
Et oui, un projet de loi visant à durcir encore les peines réprimant les relations homosexuelles, des peines qui pourraient aller jusqu'à 10 ans de prison contre 5 aujourd'hui. Le projet de loi qui prévoit aussi des sanctions en cas d'apologie de l'homosexualité. Décision qui intervient une dizaine de jours après une affaire très médiatisée au Sénégal et l'arrestation de 12 hommes pour homosexualité présumée. Arrestation vivement dénoncée par les ONG de défense des droits humains comme Human Rights Watch qui s'inquiète des conséquences de la future loi sénégalaise par la voix d'Alex Muller, directrice des questions LGBT de l'organisation.
Souvent, la criminalisation alimente la stigmatisation, la discrimination, au-delà de l'interdiction des relations sexuelles. La loi propose notamment de criminaliser la promotion et le financement de l'homosexualité, mais ce sont des termes très généraux qui ne sont souvent pas bien définis légalement. Ça veut dire que quiconque parle de personnes LGBT peut être condamné à une amende ou arrêté, comme les organisations qui offrent des services de santé, en particulier pour les hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes, puisque ce sont eux qui présentent un risque élevé de transmission du VIH en raison de la stigmatisation, eh bien ces organisations qui luttent contre le sida pourraient ne plus être en mesure de travailler comme elles le font. Ce à quoi nous assistons, c'est ce que l'on appelle l'homophobie politique, quand les gouvernements utilisent les personnes LGBT comme des cibles faciles, aussi pour détourner l'attention des autres préoccupations de la population.
Des propos recueillis par Lisa Vili, Human Rights Watch, qui appelle le Sénégal à respecter ses engagements internationaux. Le Sénégal étant signataire de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples.
3h08 à Buenos Aires, l'Argentine, où la réforme du travail vient d'être adoptée par les députés du pays.
Ah oui, réforme immédiatement transmise au Sénat, une révision de la législation voulue par le président ultralibéral Javier Milei, visant à déréguler le marché du travail, ce qui a entraîné une journée de grève générale paralysant totalement le pays, mobilisation dans les transports notamment, et manifestation jusque devant le Congrès, Théo Conscience.
Autour du Parlement, barricadé derrière des barrières anti-émeutes, flottent des effluves d'ordures qui s'accumulent sous la chaleur. Les éboueurs aussi sont en grève, tout comme Nicolas et Mariam, deux fonctionnaires venus avec leur fille dans une poussette.
Aujourd'hui, nous venons manifester pour nous, pour nos retraités et surtout pour la génération à venir.
Flexibilisation des licenciements, réduction des barèmes d'indemnité, limitation des heures supplémentaires. La réforme vise, selon le gouvernement, à faire baisser le coût du travail pour inciter les patrons à régulariser les employés non déclarés qui représentent plus de 40% des travailleurs argentins. Il faut niveler par le haut, pas par le bas, s'indigne Martine, employée dans un hôpital. Pablo, qui travaille au noir dans un restaurant, approuve.
Aujourd'hui, un serveur gagne environ 360 euros en travaillant 9 heures par jour, 6 jours par semaine. Il faut une réforme du droit du travail, mais en faveur des travailleurs. Il faut lutter pour la journée de 6 heures, pour que les emplois soient déclarés, pour un salaire minimum.
En fin d'après-midi, alors que les députés continuent d'examiner la réforme en séance, des heurts éclatent autour du Parlement. Les canons à eau et les gaz lacrymogènes de la police répondent aux tirs de projectiles des manifestants. Théo Conscience, Buenos Aires, RFI.
En France, Total Énergie face au juge.
Pour la première fois dans le pays, un géant pétrogazier se retrouve devant les tribunaux. Un grand procès climatique qui se poursuit aujourd'hui au tribunal judiciaire de Paris. La multinationale, sixième producteur de pétrole et de gaz au monde, est accusée de manquer à son devoir de vigilance environnementale. Une première journée d'audience à laquelle a assisté Jeanne Richard.
D'un côté, un collectif d'ONG et de villes accuse Total Énergie d'être un acteur majeur de la crise climatique. Il lui demande de mieux prendre en compte ce risque et de limiter son impact. Et la science est claire sur les efforts à fournir. Il faut réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre et vite. L'OCDE et un groupe d'experts onusiens ont d'ailleurs fait des recommandations spécialement pour les entreprises. S'y conformer impliquerait de planifier une baisse de la production d'hydrocarbures et de ne plus lancer de nouveaux projets, selon leurs avocats. Et s'ils demandent au tribunal de l'audace et de l'ambition, ceux de Total plaident pour une certaine retenue face à des arguments, je cite, fous et absurdes. Pour eux, les engagements climatiques sont l'affaire des États et ne concernent pas une entreprise en particulier. La pollution serait, elle, la responsabilité des consommateurs et pas celle de leurs fournisseurs d'énergie. Et même si Total refusait des projets, d'autres iraient forer à sa place. Empêcher la compagnie de se positionner serait donc punitif et contraire à la liberté d'entreprendre. D'ailleurs, disent les avocats, un tribunal n'a pas à imposer une stratégie à une entreprise.
Et aujourd'hui, plusieurs témoins seront auditionnés, notamment des scientifiques du GIEC pour ce deuxième et dernier jour d'audience.
On termine ce journal à Marseille, Martin, où le ton monte à quelques semaines des élections municipales.
Oui, la deuxième ville de France, aujourd'hui dirigée par la gauche, derrière Benoît Payan, mais qui voit le candidat d'extrême droite Franck Alicio monter en flèche dans les sondages. Derrière eux, Martine Vassal, la candidate de droite, pourrait jouer les arbitres, tout comme le candidat insoumis Sébastien Delogu, qui s'est dit prêt à faire barrage au Rassemblement National lors du débat entre candidats organisé sur BFM TV. Victorien Guillaume.
Face au scénario d'un Marseille dirigé par le RN, l'insoumis Sébastien Delogu, qui fait cavalier seul à gauche, semble prêt à se faire.
J'aime les pauvres meufs qui rouillent, maquillage qui part en couille, tronche en ratatouille, tout qui fout la trouille, cul de citrouille, celles qui ont un truc qui foire, qui font chialer les miroirs, tête d'arrosoir, qui font peur dans le noir le soir, seul au bar. J'aime celles qui sont toutes cassées, les trop grosses et les ratées, les ravagées, toutes ridées, café clope au petit déjeuner. J'aime celles qui sont plutôt belles, qui se font pousser les aisselles, 37 ans toujours pucelles, mais des yeux de faux qui t'ensorcellent. J'aime les filles qui se laissent aller, feu au cul et mal fringuées, odeur de sueur et gros néné, disposées à tout essayer. J'aime celles qui se prennent pas la tête, peau de rangée d'artiflette, cuisse au porné en trompette et prête à faire des galipettes.
J'aime les poches, les vieilles, sous les yeux qu'on dépoche.
J'aime les poches,
les grosses, avec de la brioche.
J'aime les poches,
les tours, du poil sur les guiboles.
J'aime les poches,
les monstres qu'on pas besoin d'antivol.
J'aime les poches,
les vieilles, sous les yeux qu'on dépoche.
J'aime les poches,
les grosses, avec de la brioche.
J'aime les poches,
les tours, du poil sur les guiboles.
J'aime les poches,
les monstres qu'on pas besoin d'antivol.
Je les aime pas trop malhabiles, avec sous les bras des auréoles.
Je les veux grosses à la peau molle et qui s'en branlent du danacol.
Donc qui passe, tu m'intéresses, laisse ton phone et ton adresse. J'ai acheté une jolie laisse, avec toi je ferai des prouesses. Ouais, bien sûr, c'est plus facile, mais elles sont toutes vachement plus cool. Les petits boudins au nez qui coulent, au gros tabou qui font la foule. Je les trouve patientes, touchantes, patientes et attachantes. Pas de pression, elles sont mignonnes et bien plus bonnes que toutes ces connes. Fille moche, t'as la classe et j'adore ton postérieur. N'écoute pas toutes ces connasses qui prennent ce petit air supérieur. Quand t'as du sexe pile et t'es bonne comme un flan coco, je te relaisse mon numéro, appelle-moi après ton boulot.
J'aime les poches,
les vieilles, sous les yeux qu'on dépoche.
J'aime les poches,
les grosses, avec de la brioche.
J'aime les poches,
les tours, du poil sur les guiboles.
J'aime les poches,
les monstres qu'ont pas besoin d'antivol.
J'aime les poches,
les vieilles, sous les yeux qu'on dépoche.
J'aime les poches,
les grosses, avec de la brioche.
J'aime les poches,
les tours, du poil sur les guiboles.
J'aime les poches,
les monstres qu'ont pas besoin d'antivol.
Ouais, mamselle moche, viens que je te claque une galoche. T'as la top classe, pupus, avec ta dégaine d'ananas. Et même si tu suces sous le pif comme la petite Karen Sherry, bah y'a plus de place dans le soutif quand tu ondules sous l'exomile. Moi je te trouve formidable et trop méga extraordinaire. Et tes petites œillades bovines m'ont transporté vers la lumière. Que tu sois petit poney au Cuba ou que tu sois maigre au grand bras, que
Que tu sois ronde avec tes couettes, ça me dérange absolument pas. Toi ta loupe cocotte et j'aime tes petits boutons dans le dos. J'adore ta fine moustache et quand t'imites le cachalot. T'as du style, t'as du chien, toujours lit pas de copains. T'es pas chiante et je t'aime bien, ça te brancherait qu'on se voit demain.
Je veux moche,
les vieilles sous les yeux qu'on dépoche.
Je veux moche,
les grosses avec de la brioche.
Je veux moche,
les tours du poil sur les guiboles.
Je veux moche,
les monstres qu'on pas besoin d'antivol.
Je veux moche,
les vieilles sous les yeux qu'on dépoche.
Je veux moche,
les grosses avec de la brioche.
Je veux moche,
les tours du poil sur les guiboles.
Je veux moche,
les monstres qu'on pas besoin d'antivol.
Soudé, prêt à défendre son combat.
Salam alaikum à tous.
si tu veux. Toi tu brilles pas nu, pas la couleur, fais pas l'homme. Car à toi, madame, tu les connais pas l'homme. Je sais pas si tu veux.
Évreux 102.4 dans le sud de l'Eure 95.9 et partout ailleurs sur principactif.net. Principe Actif, le mix des cultures.
Thank you.
Free, oh darling.